Bon, et ben bienvenue. Le temps dans le cinéma de SF. Vaste question. Vaste question. Comme je dispose de 8 heures et que vous avez une endurance de, ça va être pas de problème, on va réussir à couvrir la question. Si c'est moins, on va s'arrêter en chemin. Déjà, attaquer le temps dans la science-fiction, déjà de base, c'est quand même extrêmement ambitieux. On va pas essayer de rentrer dans une définition du temps, parce que déjà là, on en aurait pour à peu près 2000 ans et on n'aurait toujours pas la réponse. Mais le temps est la matière même de la SF. Ça, c'est la première chose. Michel Jeury disait, la science-fiction même est une machine à voyager dans le temps. C'est par ça qu'on la définit, quand on la définit en termes thématiques, en termes simples. Autre problème, le temps au cinéma. Oh Seigneur, le cinéma n'est que temps. Ce n'est que ça. Ce n'est qu'un enchaînement d'images à 24 images par seconde pour des questions d'aléas historiques. À une époque, on voulait faire des économies de pellicule et qui, depuis, est devenu un truc institutionnel. On ne sait pas trop pourquoi, toujours pour des raisons d'économie. Je vous propose donc un petit parcours. On va forcément être elliptique, on va forcément oublier beaucoup de choses, mais on va essayer d'explorer les différentes modalités donc de la manipulation du temps dans le cinéma de science-fiction. Et on va attaquer d'emblée par, on va dire, la chose la plus évidente, par ce qui est presque définitoire d'un thème de la science-fiction depuis H.G. Wells, depuis La machine à voyager dans le temps, c'est-à-dire le voyage dans le temps. Et on va commencer par le plus simple quand on veut parler du temps en images, c'est par métonymie, c'est de le montrer.
Possibility of overload.
Yeah. I'll keep that in mind.
Good. I'll see you tonight. Don't forget now, 1:15 a.m., Twin Pines Mall.
Right.
Are those white clocks I hear?
Yeah. It's 8 o'clock.
Perfect. My experiment worked. They're all exactly 25 minutes slow.
Wait a minute, Doc. Are you telling me that it's 8:25?
Precisely.
Damn. I'm late for...
Oh, oh, pardon mes moustaches, je suis en retard.
Monsieur!
En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.
Donc on a évidemment le début de Retour vers le futur de Robert Zemeckis, du tout premier épisode. La trilogie Retour vers le futur est assez exemplaire à ce niveau-là, vu que c'est le seul exemple qu'on ait au cinéma de série de films basé réellement sur un voyage dans le temps et qui est construit entièrement sur un respect des règles de modification du présent et du passé. J'y reviendrai en détail juste après. Qu'est-ce qui nous fait juste ici ? On pose le thème. On pose le thème, on va multiplier les horloges. On multiplie pas que les horloges, on annonce le fait qu'on va rentrer dans des temps différents, dans des lignes temporelles différentes, dans laquelle la mesure du temps a un sens qu'on va évidemment manipuler. C'est le sens de la dernière scène, où évidemment toutes ces horloges sont toutes d'accord, il y a un consensus, nous sommes toutes à la même époque, à part qu'elles se trompent toutes. Et l'histoire du personnage, et c'était d'ailleurs la phrase pour vendre le film à l'époque, hein, c'était quelqu'un qui était tellement tout le temps en retard qu'il a fini par se retrouver hors du temps. Et cette idée est déjà là, en germe là. En plus de ça, on a un hommage à La machine à voyager dans le temps, à l'adaptation 1960, où on a cette collection d'horloges en arrière-plan chez le voyageur. On ne dit jamais que c'est H.G. Wells, mais on s'en doute. Et surtout, ce qu'on a derrière, c'est cette notion qu'on va retrouver, qui nous introduit plusieurs notions qu'on va retrouver au fur et à mesure. Cette idée que le temps donc, est une matière qu'on va mesurer pour mieux la manipuler. Et ce qu'il introduit aussi, c'est le fait que le rapport au temps est à la fois pluriel et personnel. On a tous un rapport différent au temps. Et je vais vous donc inviter avoir ces différentes modalités du temps qui sont suggérées ici de manière très très synthétique par Robert Zemeckis. À travers un temps, on va commencer par le voyage dans le temps. On va ensuite partir sur la représentation d'un temps manipulable, d'un temps relativiste, sur les conceptions théoriques du temps avant d'en arriver à un temps subjectif, avec en arrière-plan des choses sur la manière dont nous percevons effectivement le temps. Puisque on ne va pas le définir, parce que j'en serais bien incapable, et on a déjà eu des panels de physiciens qui ont essayé de le définir et qui n'y arrivent pas effectivement entre eux. On peut définir des choses comme la durée ou autre. On va essayer de rester beaucoup plus simple et pragmatique autour d'extraits de films, mais je vais essayer d'apprivoiser mon outil. Donc je vous propose en premier de regarder, c'est un voyage dans le temps dans les voyages dans le temps, en introduisant par Emmett Brown. Donc voilà comment voyager dans le temps dans les années 80.
The molecular structure of both Einstein and the car are completely intact.
Where the hell are they?
The appropriate question is, when the hell are they? You see, Einstein has just become the world's first time traveler. I sent him into the future.
1 minute into the future, to be exact.
And precisely 1:21 a.m. in 0 seconds, we shall catch up with him at the time machine.
Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean?
The way I see it, if you're gonna build a time machine into a car, why not do it with some style? Besides, the stainless steel construction made the flux dispersal. Look out!
On a à peu près tout dans cette scène-là. Je passe rapidement sur les progrès des effets spéciaux depuis les incrustations de l'époque. C'est quand même de toute la trilogie l'incrustation la plus pourrie. Le reste est quand même de vachement meilleure tenue, mais celle-là, ils l'ont un peu foirée, certes. Qu'est-ce qu'on a dans cette scène-là ? C'est un popcorn movie des années 80. C'est-à-dire que c'est un film qui, a priori, est en premier lieu un objectif de divertissement, de jeu assez libre sur des codes génériques, avec vraiment une vue de... divertissement, c'est un travail assez léger qui fait toute une génération de films. La différence de celui-là, c'est qu'il n'y a absolument strictement rien de gratuit dans ce qu'on vient de voir. Le moindre élément est signifiant. Soit signifiant par rapport à l'histoire des sciences, signifiant par rapport à l'histoire des techniques, ou signifiant par rapport à ce qui va se passer dans le récit plus tard. On peut les narrer par le menu. Pourquoi un chien ? Voilà, on est d'accord. Première chose, première référence, premier chien dans l'espace, le premier voyageur de l'espace, c'est le premier voyageur du temps. Ça, c'est la première chose. Évidemment, on va jouer avec Einstein. Einstein est le premier voyageur du temps. Il l'a désintégré. Et là, on a quelque chose de tout à fait précis et même d'assez fin sur la compréhension de l'histoire des sciences. Quand Einstein postule la relativité restreinte et générale, ça va, il n'y a personne qui va me sauter dessus ici, il fait deux choses paradoxales. D'une part, il affirme que le voyage dans le temps est impossible. Mais dans le même temps, il pose que le temps n'est pas une valeur absolue de l'univers. Donc, il féconde l'imaginaire et rend encore plus possible en imaginaire le voyage dans le temps. En même temps qu'il en pose l'impossibilité physique, il en décuple l'idée de la possibilité d'un voyage dans le temps en faisant une chose malléable, ce qu'elle n'était pas avec moi. On a exactement ça dans cette idée-là. On a aussi un rapport à la fascination de la technique dans les années 80, qui pour tous ceux qui l'ont connu, il y a un enthousiasme technique pour un ensemble d'appareils qui fonctionne mal. La technologie des années 2000 est en bonne partie une technologie des années 80 qui fonctionne, qui est rendue pratique parce qu'elle pèse moins de 4 kilos, qui est rendue utilisable grâce aux batteries ion-lithium qui ont remplacé les piles et qui en plus a tendance à travailler sur l'interface, ce qui était une chose. Je veux dire, manipuler un caméscope des années 80, c'était un travail en soi. À l'époque, on était obligé de lire la notice. Et cette chose-là, on l'a évidemment, qui se mélange à l'image du savant fou, la télécommande qu'il a à la main, c'est un fantasme de modélisme d'enfant des années 80. Mais totalement, c'est une espèce d'idéal absolu. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a une DeLorean. Alors, une DeLorean, c'est un truc cool et c'est un accident industriel. Il faut le savoir, hein. Ils en ont produit extrêmement peu, ça s'est planté, donc elle a toutes les caractéristiques qu'il faut pour avoir de la gueule et voyager dans le temps. Par contre, ça n'a jamais marché dans le monde réel. Et le mouvement de Marty, évidemment qu'il y a un côté extrêmement drôle et qu'on travaille sur le savant fou, genre, non mais il est complètement débile, j'ai toute la place du monde et évidemment je vais me mettre juste en face. Forcément, il s'écarte et forcément, l'autre se vexe. Mais on a aussi là une allusion directement aux limites en fait, de la technologie de l'époque. Tous les détails qu'on a autour, tous les objets qu'on voit, et ça c'est la grande force de la trilogie de Retour vers le futur à ce niveau-là, tous vont avoir une signification dans le récit. La télécommande, la manière de faire bouger la voiture, même s'il ne le savait pas au départ, ça va devenir tout l'enjeu des deux et troisième épisodes. Le fait d'avoir la caméra vidéo, la caméra va être la preuve qui va lui permettre de convaincre Emmett Brown en 1955, que ce qu'il dit est vrai, avec en plus, elle va tenir tout le message politique du film. Dans le pop-corn des années 80, souvent, on n'avait pas de message politique clair, ce qui ne veut pas dire qu'on n'avait pas de contenu en sous-texte. Et il y a notamment cette idée assez géniale, il arrive avec sa caméra et explique à Emmett Brown en 55 que le président, c'est Ronald Reagan. Ce qui fait évidemment hurler Emmett Brown en étant complètement irréaliste, comment un acteur de seconde zone peut devenir un jour président des États-Unis, jusqu'au moment où il voit la caméra en disant « c'est extraordinaire ». Un studio de télévision portatif. Pas étonnant que vous ayez besoin d'un acteur comme président. Il faut qu'il passe bien à la télévision. Si ça, c'est pas un commentaire qui était déjà extrêmement d'actualité en 1985, mais qu'il l'est encore plus, malheureusement, 30 ans plus tard, ça marche extrêmement bien. Mais aussi dans les détails. Quand vous avez le panneau qui vous appelle que c'est Twin Pines. Donc ici, on est dans un centre commercial, donc des deux pins ou des pins jumeaux. En fait, il se trouve que quand il va partir dans le futur, juste après, la première chose qu'il va faire, en fait, c'est écraser un des pins du vieux Peabody. Et que quand il va revenir, au final, en 1985, ça va avoir changé de nom. Ça va être le Lone Pine. Ça va être le pin solitaire. Et l'ensemble de la trilogie est fondée là-dessus, sur une réflexion sur la manière dont on va changer une ligne temporelle. Et sous des aspects de comédie, il y a un vrai respect des règles. C'est-à-dire que tout le long du film, et ça va être respecté dans toute la trilogie, ils vont affronter le paradoxe. Parce qu'évidemment, dès qu'on a un voyage dans le temps, on a un risque de paradoxe. Alors, ça peut être cool, ça peut être pas cool, ça peut être pris de manière sérieuse ou pas sérieuse. D'une manière générale, on arrive à des régressions infinies. Le paradoxe qu'on a là, c'est le paradoxe d'annuler sa propre existence. Puisqu'évidemment, quand il arrive en 1955, il séduit sa mère, qui tombe amoureuse de Calvin Klein, enfin Pierre Cardin dans la version française à l'époque, Calvin Klein en anglais, puisqu'évidemment, elle voit son nom parce qu'elle le déshabille et c'est écrit en gros sur ses sous-vêtements. Donc elle en déduit que c'est son nom. Et forcément, il a le risque d'annuler sa propre existence. On pourrait avoir un gros paradoxe temporel, un peu brutal. D'ailleurs, il l'évoque. Il dit qu'il faut absolument qu'il évite des choses. Ça pourrait aboutir à une déchirure du continuum espace-temps. Dans le premier film, c'est problématisé par le fait que juste après cette scène-là, Doc Brown en fait, est tué par les terroristes libyens auxquels il a refilé des vieilles pièces de flipper à la place du plutonium qu'il aura subtilisé pour faire marcher son convecteur temporel. Donc, il lui laisse une lettre pour lui dire, lui annoncer, le prévenir de son propre avenir et lui dire il faut faire quelque chose pour que vous ne mouriez pas. Évidemment, Doc voit cette lettre, la déchire et lui explique que non, il ne peut pas risquer de déchirer le continuum spatio-temporel en connaissant son propre futur. Évidemment, on est dans un pop-corn des années 80. On n'est pas dans Game of Thrones. Donc, on ne tue pas un personnage sympathique. Les codes génériques n'avaient pas encore changé à cette époque-là. On ne le faisait pas, c'est tout. Du coup, évidemment, il a mis un gilet pare-balles et la réponse de Doc Brown est très claire. Et il y a la discussion avec Marty, c'est-à-dire qu'ils esquivent pas la question. Il fait « Mais le continuum espace-temps, ce que vous avez dit ?» Et là, Doc Brown lui répond « Je me suis dit, on s'en balance. » Le code générique passe par-dessus, effectivement, le respect de la cohérence. À côté de ça, quand ils ont fait les deux et trois, ils ont dit « On peut pas laisser ça comme ça, parce que c'est des vrais connaisseurs de science-fiction qu'on a derrière. Donc on va le problématiser, et ils l'ont problématisé d'une manière assez intelligente en disant on va limiter la portée. Déjà, dans le premier, tout le monde a vu Retour à le futur. Major spoiler coming on, major spoiler. Bref, dans ce qu'ils font après, c'est quand il arrive et qu'il commence à annuler sa propre existence parce que sa mère tombe amoureuse de lui au lieu de son père, qui est un énorme geek, auteur de science-fiction un peu frustré, qui n'a pas encore réussi à sortir de sa coquille, c'est-à-dire ni à séduire la femme qu'il aime, ni à mettre un gros pain dans la gueule de Biff, et ni à écrire son premier roman, ce qu'il va faire grâce à son fils. Son frère commence à s'effacer de la photo. Et donc, dès le départ, mais c'est un biais cinématographique, là c'est un outil, il faut que j'ai un temps de latence entre le moment où il modifie l'histoire et le moment où il annule sa propre existence, sinon j'ai pas de récit. Donc ça marche extrêmement bien visuellement, de le voir effectivement s'effacer de la photo, puis de s'effacer de la réalité, ça marche visuellement très très bien. Mais du coup ça introduit un temps de latence qu'ils vont exploiter dans le 2 et le 3 avec l'idée de la portée, de la localité de ce qu'on va changer dans le futur. Soit je change quelque chose qui n'a pas de grandes conséquences. Dans ces cas-là, je peux le faire. Et dans le film, et en respect des codes aussi du cinéma américain spielbergien des années 80, sont limités à la famille. Je peux modifier mon histoire familiale, locale, sans changer l'histoire. Mais c'est exactement ce que ne fait pas Biff Tannen. Dans le deuxième, si vous vous souvenez, Marty achète un almanach qui lui donne les résultats sportifs des 50 prochaines années, en se disant qu'il peut bien se faire un petit billet en plus. Évidemment, Doc n'est pas d'accord. C'est Biff Tannen qui récupère l'almanach et qui devient richissime et qui, lui, pour le coup, crée un 1985 alternatif qui est une véritable uchronie cauchemardesque dans laquelle il a acquis une telle fortune, il a investi non pas dans des choses locales mais dans la politique énergétique de son pays. Il est devenu le chantre du nucléaire aux États-Unis et du pétrole. C'est lui et non pas Kennedy qui sort avec Marilyn Monroe. Il est pris en photo avec Jane Mansfield. Bref, il est réellement, quand il dépasse la portée de sa famille et qu'il n'est pas prudent, il crée une uchronie cauchemardesque qu'ils doivent annuler en revenant évidemment au point de divergence. Et on a des scènes pédagogiques qui sont hyper traditionnelles dans le cinéma de science-fiction quand il s'agit d'expliquer quelque chose, où on a souvent la figure du scientifique qui vient expliquer avec un tableau. Alors là, on a même une parodie de ces scènes-là, vu que non seulement il fait des schémas en expliquant qu'il y a une ligne temporelle, une deuxième, et il montre à Marty, qui joue le rôle du naïf, pour que le spectateur comprenne bien quels sont les enjeux de la modification temporelle, et puis il rajoute une maquette en plus. Des maquettes extrêmement détaillées, mais comme c'est un savant fou, il s'excuse qu'elle ne soit pas complètement à l'échelle, alors qu'il y a passé 200 heures. Si vous êtes des joueurs de jeux de plateau, vous connaissez bien le problème. Désolé, j'ai pas eu le temps, j'ai passé que 3 semaines à la peindre, mais elle est pas mal quand même. Mais donc c'est exactement cette idée qu'on a là, dans un film qui est de divertissement complètement, mais qui pour le coup relève d'une connaissance de la science-fiction extrêmement précise. On va remonter le temps un peu. Allez, on va remonter le temps jusqu'en 1960, qui nous ramène au 19e siècle. Bref, on va regarder Le Voyage dans le Temps, l'adaptation de H.G. Wells, la première en 1960. And the candle, shorter by inches. And yet by my watch, which was in the machine with me, only a few seconds had passed. Disconcerting to see the sun arc in less than a minute. To see a snail race by. My flowers flinging wide their petals to embrace the new day. And the hours speeding across the face of my sundial. And the flowers closing their eyes for the night. It was wonderful. Changes that normally took hours occurring in seconds. Dear Mrs. Watchett, always able to tell me what tie to wear, but never able to decide to wear anything more stylish than the type of clothes she's worn all these years. And as yet I was traveling very slowly. What if I went faster? Thank you.
push the lever on toward even greater speed. As I went along, I gained experience in handling the machine. I found that I could stop for a day, an hour, or even for a second to observe. Then go ahead a year or two. Thus, I was able to see the changing world in a series of glimpses.
Good heavens. That's a dress?
This was intriguing. I wonder just how far women would permit this to go. I began to grow very fond of that mannequin. Maybe because, like me, she didn't age.
Thirteen years have passed. 14. 15. 16. And then suddenly the light was gone.
La lumière s'éteint quand il arrive en 1917. Juste pour préciser. Il ne marche pas celui-là. Si, ça va y. Cette scène-là est à peu près la scène matricielle des voyages dans le temps qui vont suivre dans les 60 années de cinéma qui vont suivre. Les trois couleurs du cadran de la machine de Doc, de la DeLorean, sont des références directes aux ampoules de la machine de 1960. Vous avez remarqué que la machine avait été fabriquée par H.G. Wells. Hein, par Herbert George Wells qui est mis dessus. On a évidemment des multiples manières de représenter le temps. On a évidemment cette roue paroxystique qui est derrière lui, qu'on va retrouver dans la plupart des séries, qu'on retrouve dans les séries 60-70, hein, qui va être le grand thème du tunnel temporel qu'on va avoir. Évidemment, un délicieux côté rétro-futuriste pour l'époque. Hein, quand on dit qu'H.G. Wells c'était steampunk, c'est une totale reconstruction. Hein, on peut pas dire un truc plus faux. Hein, ce sont les représentations du 19e et de la SF du 19e qui esthétiquement accouchaient du steampunk, mais lui il l'était pas. Et surtout, on a ce rapport au cycle naturel. Donc, je sais pas si vous avez remarqué que les fenêtres devenaient auto-nettoyantes au bout d'à peu près 20 ans. Hein, elle l'était pas du tout, hein, elle reste pourrie pendant très très longtemps. Et puis évidemment, on a déjà ce clin d'œil à l'époque. On est donc là en 1960. Donc on est au bord d'une des plus grandes révolutions vestimentaires qui va réduire de 75% la masse de tissu portée par les femmes. Et évidemment, on a effectivement ce clin d'œil qui est là, de dire de ce voyageur du 19e siècle qui arrive en 1900 et qui voit donc une robe entièrement couvrante et qui déjà se dit « Waouh, sexy ». Mais jusqu'où ça va aller ? Donc on a déjà cette espèce de rapport rétrospectif qui va à chaque fois nous ramener vers l'époque en fait contemporaine du spectateur qui va ramener de manière rétrospective. On a une démonstration d'effets spéciaux de l'époque. Enfin, je veux dire, comparativement entre ce que fait Zemeckis où il rate certains plans dans les années 80 et celui-là, là on est en quelque chose d'extrêmement impressionnant. Donc d'impressions successives image par image, hein, où on va peindre chaque image avant de les enchaîner. On va reprendre l'enchaînement parce que juste après je vais vous passer le même voyage, la même séquence mais revue dans le remake de 2002. Tous les effets spéciaux cinématographiques, tous, ont été inventés par Georges Méliès en France. Tous les effets spéciaux utilisés jusqu'à 1990. Il n'y en a pas un qui n'a pas été inventé ou expérimenté par Georges Méliès avant l'arrivée du numérique au cinéma. Donc tout ce que vous voyez là, Méliès l'a déjà fait avant, au moins en germe. Évidemment que ça a été peaufiné, amélioré, industrialisé, mais on a tous les effets qui sont déjà là. Et donc on a ce rapport donc évidemment à la date. Vous avez remarqué que quand on met un homme au volant d'une machine, son premier réflexe c'est de voir s'il peut accélérer. Hein. C'est ce que disait Jerry Seinfeld dans son One Man Show, qui est le truc qui l'a toujours étonné avec la conquête de la Lune, c'est qu'on ait emmené un module lunaire. Comme quoi, même sur une autre planète, l'idéal d'un être humain, c'est d'aller faire un tour en bagnole, même sur la Lune. Donc juste pour comparer, parce que c'est un voyage dans le temps, voyons la même chose donc, mais refaite en 2002.
Thank you. Certain restrictions apply. Blackout periods and availability subjects have changed. For full details, contact lunarleisure.com.
Bon, effectivement, on a un petit peu progressé depuis. Ils auraient bien aimé faire ça en 1960, mais ils pouvaient pas. Quand même des choses intéressantes dans les modifications de l'histoire qu'il y a entre les deux. L'œuvre de Wells, au départ, quand on parle du roman, est une œuvre dont le fond du message est une critique de sa société contemporaine. Hein, le voyageur dans le temps va explorer la manière dont le système, hein, qui suit la révolution industrielle, le système social, hein, d'oppression de masse prolétarienne par une minorité qui a les outils de production, va aboutir à un système avec deux races interdépendantes, etc. C'est vraiment le message de l'original. Dans les années 60, on a déjà une modification. On n'est pas exactement dans la même histoire, mais on reste quand même dans une observation collective de la réalité. Celui de 2002, l'histoire devient plus individuel. On garde quand même le côté global, on récupère le côté environnemental, vu qu'un des gros événements en fait, du film là, c'est la sortie de la Lune de son orbite du fait de la surexploitation de la Lune. Mais le fil rouge du film qu'on a dès le début, c'est son rapport à sa femme, notamment dont il perd la photo là, qu'on n'a absolument pas, hein, ni dans le roman, ni dans le premier film, qui reste un peu plus proche du roman. Et donc on va le problématisé de cette manière-là avec une notion de destin. C'est-à-dire que toute la première partie du film du voyage est basée sur le fait qu'il puisse essayer de sauver sa femme qui meurt d'un accident de voiture, chose qu'il n'arrive jamais à faire. Donc on rajoute en fait cette notion-là dans le deuxième film avec cette idée qu'on ne peut de toute façon pas changer l'avenir et en remettant une problématique complètement personnelle au héros où on revient sur un schéma beaucoup plus classique. Sinon, essentiellement, on a là ce qu'ils auraient bien aimé faire effectivement en 1960. On retrouve, grâce à la technique, mais ça on dit souvent en science-fiction, qu'on a des chances d'avoir de plus en plus d'adaptations de science-fiction à mesure que les effets spéciaux deviennent plus économiques. Ça a toujours été le problème de la science-fiction, c'est que ça coûte cher. Voilà, et on n'y peut rien, je veux dire, qu'on écrive un roman qui se passe à Paris de manière contemporaine ou dans l'an 3000 ou 8000 ou avec des... Ça coûte le même prix. Pour un film, non. Pour un film, c'est plus cher. On peut espérer avoir de plus en plus de films de SF. Là, on est resté dans le côté vraiment canonique. On voit que l'effet principal de voyage dans le temps, l'effet visuel, est un effet simplement d'accélération. On va accélérer les rythmes naturels, on va jouer avec, on va étendre le point de vue, le rendre de plus en plus global. On est dans des choses tout à fait classiques. On va commencer à rentrer dans les différentes modalités de la chose. D'une part, on a toute une veine de voyage dans le temps qui est devenue un cliché de la science-fiction, de science-fiction parodique, où on voyage avec un peu moins de style.
Do I really gotta be the asshole that says we got in this thing and went back in time?
It must be some kind of hot tub time machine.
Donc forcément, entre-temps, le voyage dans le temps est devenu un tel cliché au sens large hein, de la science-fiction qu'on a toute une veine de films comme celui-là qui sont du voyage dans le temps complètement parodiques. Hein, ça, c'est Hot Tub Time Machine, donc le jacuzzi à remonter le temps, hein, où des êtres se retrouvent dans leur jeunesse dans les années 80. C'est un film de 2010 hein, qui se moque ouvertement du thème. Ceci dit, on reste quand même sur des fondamentaux. Et je vous en montrer un autre qui est aussi un voyage dans le temps parodique, mais où là, pour le coup, on continue à voyager dans le temps un petit peu en termes de technologie. Là, on est à l'âge du tout numérique et on est à l'âge de la 3D. Donc, je suis désolé de vous le projeter en petit et sans vous mettre des lunettes sur les yeux parce que vous ne voyez pas vraiment la séquence. Ça fait partie des séquences qui sont faites pour être vues en 3D. Vous pouvez ne pas aimer ça, hein, mais elle était faite pour être vue en 3D, c'est tout. C'est comme Avatar. Si vous l'avez vu qu'en 2D, vous ne l'avez pas vu. Comme Gravity, comme Hugo Cabret. Comme l'Odyssée de Pi.
Now, as soon as you're moving fast enough, that circle's gonna fill up with some sort of green time travel liquid or some such, and it's gonna glow really bright. As soon as that happens, you need to break that blue laser line with your thumb to complete the circuit. At this height, that should be, let's see, mass of Earth, 30-something feet per minute.
It's 32 feet per second per second!
That sounds right-ish. So that would be, I guess, about 2 feet off the ground.
Yeah, break the laser line?
No, don't break it.
Not, I mean when I'm fast enough.
Sounds good.
Wait, do I break the laser line or do I not break the laser line?
Do not lose that time device or you will be stuck in 1969. Wasn't the best time for your people. I'm just saying. It's like a lot cooler now.
How will I know if it works?
You'll either know or you won't. You must really love this guy to do this.
Oh, wait. How come I remember Kay, but nobody else does?
Whoa! Whoa! That means you were there!
That was where?
If you survive, you gotta come back and tell me everything, okay?
Where was I?
You gotta go! Go, go, go!
My man, what's the day?
Tuesday.
The date?
The 15th.
Of?
July.
Dog, the year?
1969.
Thank you. Look at me like I'm crazy.
Alors, c'est ce qu'on appelle une scène somme. Je pense que vous avez vu à peu près tous les éléments qu'on a vus dans les scènes précédentes sont à peu près repris dans une forme détournée sur celle-là. Évidemment, il a son compteur steampunk, forcément, qui est complètement absurde, hein, on est d'accord. C'est un truc où la date, elle est fixe. Dans les autres, non, on peut changer la date. Mais là, on peut pas. La date, elle est gravée en bronze. Il peut aller que là. Ça ne sert qu'à ça, quoi qu'il arrive. Il peut aller que là. Et puis, rien n'est au hasard pareil. On prend le Chrysler Building. Donc, quand on prend l'immeuble de Chrysler, on prend un moment, un des symboles de la raison pour laquelle on appelle New York Gotham City. Donc, c'est le rapport de New York à l'architecture gothique et donc à cette ville-là. Donc là, de manière détournée, on fait déjà référence à l'arrière-plan littéraire de la chose. On a l'effet d'accélération. On a la mise en scène du fandom. Puisqu'évidemment, on a le fan absolu qui est là derrière, qui va lui expliquer les choses avec des notions complètement approximatives. C'est-à-dire que déjà, il se gourre juste entre les minutes, les secondes pour lui expliquer à combien de centimètres du sol il va devoir appuyer pour ne pas s'écraser, sachant que c'est finalement 60 centimètres, mais il ne se trompe pas. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, on a aussi déjà une allusion à une chose qui est, pour voyager dans le temps linéaire, il faut faire un cycle. C'est-à-dire qu'on a déjà une introduction assez subtile du fait que, d'accord, on voyage dans un temps donné qui est censé s'écouler d'un point à un autre et on ne peut jamais revenir en arrière, mais on a déjà une forme de boucle qui se passe. Or moi-même, je me suis évidemment amusé à vous faire une boucle en vous passant la même scène à 50 ans d'écart du 19e siècle pour dire qu'effectivement, dès qu'on commence à voyager dans le temps, bah, on court le risque de la répétition, forcément. Et ce qu'on a derrière aussi, c'est cette idée d'un avenir alternatif, puisqu'on commence avec effectivement une destruction par des extraterrestres. Et on va revenir, et à la fin, on a le poids de la preuve. Et il le prévient, alors la traduction des sous-titres, bon, ce sont des sous-titres, on ne peut pas leur demander non plus beaucoup, mais joue déjà sur ce double sens. Hein. Il arrive à une période qui est encore une période ségrégationniste. Donc en fait, le premier signe qu'il a vraiment voyagé dans le temps, c'est un, de regarder une horloge. Ça n'a pratiquement aucun sens. Le voyage a duré quelques secondes, donc c'est juste un truc complètement absurde. Mais le premier signe qu'il est vraiment revenu dans le temps, c'est la manière dont le blanc se révulse dans le Chrysler Building en le regardant de côté. Et évidemment, derrière, on a tout le côté de Men in Black qui vient derrière. On est effectivement dans une scène semi-parodique. Je veux dire semi, histoire d'être gentil. On va en venir à d'autres modalités. Le temps, c'est aussi quelque chose qu'on monnaie. On peut soit effectivement manquer de temps, on n'a pas encore de pilule de temps. Une manière de vivre plus de temps, c'est de se multiplier soi. C'est de ne plus être dans une seule ligne temporelle, mais dans plusieurs. Et là, voilà, voilà. Non, là, j'avoue, c'est une scène, c'est personnel, c'est mon fantasme.
You understand what I'm suggesting?
Yeah, sure.
Well, it's not to understand. You Xerox people.
Way. Sort of. Procedure takes about 2 hours.
Oh, I don't know about that.
More or less. And at the end, you have everything you need.
What is it that I need?
Time. All you need for everything.
Let's say I'm interested. You know, it's nothing fancy, just the basic. Just the basic clone job cost.
Donc ça, c'est la solution de base. The film, c'est Multiplicity, mais d'où Ma femme et moi, de l'immense Harold Ramis, auteur d'Un jour sans fin, de Ghostbusters, celui qui est à l'origine de la série aussi des Sopranos avec Analyze This. Donc là, on a une autre modalité qui est que si je ne peux pas multiplier le temps, je peux, moi, me multiplier sur différentes lignes temporelles. Donc il y a deux idées qu'il introduit là. Il y a cette idée-là. D'une part, si je veux plus de temps, il faut que je sois multiple. La deuxième idée, c'est que le temps est une chose monnayable. Alors ça, c'est quelque chose qu'on connaît dans à peu près toutes les langues, hein, l'idée que le temps est de l'argent. Bon, ok, je viens d'enfoncer une magnifique porte ouverte. Après, évidemment, on a dans certains récits de science-fiction, c'est quelque chose qui revient, une manière de les décrire, on parle souvent de réification des métaphores, ou en tout cas, on va décaler le degré de réalité, et on va passer donc d'une idée que finalement, on achète le temps et de l'argent, qu'on l'achète, à passer du temps comme monnaie absolue. C'est ce que font les sœurs Wachowski dans Jupiter Ascending, c'est le destin de Jupiter, je crois en français, où justement, ils projettent un espèce de monde à la Matrix, mais à l'échelle de l'univers, où la Terre n'est en fait qu'un champ cultivé, hein, dans lequel on va faire la moisson de tous les humains, qui permet de vendre du temps en fiole, qui permet à une caste de devenir pratiquement immortelle en se traitant. Donc dans ce cas-là, on a effectivement cette idée du temps comme valeur marchande, et on l'a dans un film particulier, un film d'Andrew Nichols, hein, l'auteur de Gattaca, l'auteur de Simon, où il s'appelle In Time, à temps, où là, tous les êtres, en fait, le vieillissement est arrêté à peu près à l'âge de 25 ans, donc les gens sont virtuellement immortels. Par contre, le temps est la monnaie absolue. Tout se paye en temps. Au moment où on arrête leur croissance et leur vieillissement, ils se retrouvent avec un compteur en fait sur l'avant-bras qui compte le temps qu'il leur reste. Tout le monde est payé en temps, paye en temps, est immortel tant qu'il a de l'argent. Par contre, quand le compteur arrive à zéro, les gens meurent. Elle essaye de rentrer chez elle, mais n'a pas assez d'argent pour payer le taxi, car les tarifs augmentent de jour en jour.
Oh!
No! Mama, Mama.
Donc, In Time, on est à peu près à un pôle de science-fiction, on va dire, symbolique. C'est-à-dire que tout le film est construit comme une démonstration de cette idée du temps comme monnaie absolue. Bon, pour moi, ça, c'est honnêtement, c'est la meilleure scène du film, mais c'est le moins bon film d'Andrew Nichols. Bon, le film a un gros défaut, c'est qu'ils sont obligés de sauver le monde. Ça arrive, hein, c'est comme ça. Ceci dit, sur certaines scènes comme ça, ça fonctionne extrêmement bien. Ce qui se passe après, en fait, pour le héros, c'est que, et ça, c'est ce qui est déjà devenu un stéréotype dans la SF, c'est que certaines personnes sont tellement riches qu'elles finissent par s'ennuyer de vivre. Et le héros qui est là, donc vous avez repéré, j'ai pas mis de sous-titre, hein, mais c'est la mère et le fils. Hein, les deux, en fait, n'ont pas du tout le même âge, mais génétiquement, physiquement, ils ont le même âge. Et ce qui se passe après pour le héros, c'est donc qu'il tombe sur quelqu'un d'extrêmement riche, mais qui est lassé, en fait, de son existence, qui décide de se suicider, et qui, avant de se suicider, lui transfère à peu près une centaine d'années, je ne sais même plus que ça, d'existence possible. Et donc, on a vraiment un monde qui, en plus, même en termes spatial, en termes géographiques, est vraiment concentré, qui a les zones extérieures avec les pauvres, et pour rentrer, en fait, au cœur de la ville, hein, et au cœur du système, il faut payer à chaque fois un péage qui est de plus en plus cher. Pour arriver au dernier niveau, c'est pratiquement 20 ou 40 ans qu'il faut donner, juste pour passer la porte. Et lui, évidemment, va aller faire sauter toutes les banques. Il va nous faire, en gros, une Fight Club de SF. Bon, par contre, sur les scènes comme ça, ça fonctionne plutôt bien. Mais là, on est à un pôle, effectivement, de science-fiction qui va travailler sur une littéralisation de la métaphore et qui va baser l'ensemble du récit dessus. J'ai dit qu'on continue dans ces différentes modalités, puisque, effectivement, la mesure du temps, et c'est déjà ce qu'on a dans l'autre, on pourrait s'imaginer qu'en science-fiction, on a effectivement la mesure scientifique du temps, on a l'observation des cycles naturels, mais la seule vraie première mesure du temps qu'on ait, c'est la mesure d'un temps subjectif. C'est le temps de la vie humaine qui nous donne un arrière et une fin. Et il y a un film qui prend ce cas-là. Je vais vous le montrer.
This is Julian Marshall, live from New York Hospital.
Where we're going to see the final episode in our series, The Last Mortals. Mr. Nobody is 117 years old, and he has not been telomerized, nor does he have one of those marvelous stem cell compatible pigs. Live on WWB, Mr. Nobody will be the last man on Earth to die of old age. Mr. Nobody.
The last mortal.
The last mortal. Now, Doctor.
Mr. Nobody, Jacob Fuddormel. Comme j'ai le micro, je peux dire chef-d'œuvre absolu de la SF et du cinéma d'une manière générale. Donc là, effectivement, on est dans le film démarre sur un mode de compte. Là, on est dans une projection de SF tout à fait classique et de son époque. Hein, cette idée qu'on va pouvoir effectivement acquérir une quasi-immortalité. On est dans des prospectives complètement contemporaine, hein, l'idée de pouvoir modifier l'identité, la carte HLA d'un cochon, hein, qui sont extrêmement proches de nous, pour développer une banque d'organes qui nous permet effectivement de nous étendre au-delà des 100, 125 ans qu'on estime à peu près être la durée de vie de nos organes actuellement. Donc là, on est dans une problématique complètement contemporaine. Enfin, dans une vision de l'avenir tout à fait contemporaine, évidemment filmée avec des références énormes à Terry Gilliam. Tout le personnage, le côté paroxystique du personnage, ses mimiques, le fait de l'avoir en très gros plan, tout le jeu sur l'expression du personnage qui est à la fois on va dire excessive et qui est à la fois un jeu extrêmement théâtral et qui renvoie par retour à la, on va dire, au degré de réalité de la télé-réalité donc contemporaine du spectateur. Mais on a cette problématique dans Mr. Nobody que donc c'est le, déjà il a un nom générique, Donc l'idée d'avoir un nom générique de celui qui n'est personne nous renvoie effectivement à déjà à Homer et à un récit universel, mais surtout dans Mr. Nobody, cet être-là qu'on voit n'a pas une vie. C'est-à-dire que lui, à cet âge-là, est atteint d'Alzheimer, perd la mémoire, a du mal à raconter sa propre vie. Tout le récit va être non pas le récit de sa vie, mais de ses vies. C'est un film quantique, c'est un film sur l'ensemble des existences possibles qui dépendent des choix. Donc c'est un film qui va non pas jouer sur un temps vu comme causalité, comme effet de cause, enfin de, comme cause à effet qu'on va pouvoir modifier, comme chaîne d'événements, mais comme un temps multiple. Et il repose sur une autre conception, plus moderne du temps, sur laquelle il va jouer de manière libre. Et donc il va, c'est un voyage subjectif dans les temps possibles, imaginables ou concevables de l'esprit humain, sur les possibles du temps, dans, selon des théories beaucoup plus contemporaines. La scène qui suit va confirmer ce à quoi il fait un gros doigt. Oui, il emmerde l'immortalité. Oui, il emmerde la télomérisation. Il emmerde ce rêve de futur absolu dans lequel l'immortalité serait un but à atteindre. Mr. Nobody, au contraire, est quelqu'un qui embrasse de manière absolue la contingence de la réalité humaine, l'imperfection de ses relations, le fait que de temps en temps, on tombe amoureux, on sent mauvais, on s'en relève, et c'est ça qu'il aime dans la vie.
It's okay, I'm a journalist. The hospital won't allow interviews. I'd just like to ask you a few questions. A friend of mine's a nurse here. She helped me get in.
What time is it?
1412.
Where did you get that?
I borrowed it from the university museum. But it still works.
I've got nothing to say to you. I'm Mr. Nobody, a man who doesn't exist.
Do you remember what the world was like before quasi-immortality?
What?
Telomerization. Endless renewal of cells. What was it like when humans were mortal?
There were cars that polluted. We smoked cigarettes. We ate meat. We did everything we can do in this dump, and it was wonderful. Most of the time, nothing happened. Like a French movie.
And, sexually. Before sex became obsolete.
We screwed. Everybody was always screwing. We fell in love. We fell in love. What time is it?
What was there before the Big Bang? Well, you see, there was no before, because before the Big Bang, time did not exist. Time is a result of the expansion of the universe itself. But what'll happen when the universe has finished expanding and the movement is reversed? What'll be the nature of time? If string theory is correct, the universe possesses 9 spatial dimensions and 1 temporal dimension. Now, we can imagine that in the beginning, all the dimensions were twisted together. And during the Big Bang, 3 spatial dimensions, the ones that we know as height, width, and depth, and 1 temporal dimension, what we know as time, were deployed. The other 6 remained minuscule, wound up together. Now, if we live in a universe of wound dimensions, how do we distinguish between illusion and reality? Time, as we know it, is a dimension we experience only in one direction. But what if one of the additional dimensions wasn't spatial, but temporal?
If you mix the mashed potatoes and the sauce, you can't separate them later. It's forever. The smoke comes out of Daddy's cigarette, but it never goes back in. We cannot go back. That's why it's hard to chew.
Et donc tout le film est contenu là. En fait, non, il part dans plein de directions différentes. Mais tout le film est là sur les différents choix. Ce qu'il y a juste après cette scène, en fait, je les ai raccourcis pour vous en montrer plus. On a donc lui, enfant, qui donc n'arrive pas à choisir entre les deux gâteaux parce que tant qu'il n'a pas choisi, tout est possible. Et il passe ensuite devant trois petites filles. Et en fait, le film va raconter les différentes vies qu'il aurait eues selon deux choix. Un, ses parents divorcent. Est-ce qu'il va rester avec sa mère ou avec son père ? Et on a une scène du train qui, elle, on a un autre effet, là, purement cinématographique, on verra un autre exemple après un peu plus SF, d'extension, on va étendre le moment, où on a cet enfant qui voit, on a donc un effet de ralenti, où il voit sa mère qui monte dans le train, son père qui est sur le quai, les deux le regardent, et il doit choisir. Est-ce qu'il part avec sa mère ? Est-ce qu'il part avec son père ? Et cela se mélange à un autre choix qui est avec quelle, laquelle des trois petites filles de son enfance est-ce qu'il va se marier ? Tout ça aboutit à un ensemble de ramifications. On en a six de base, plus des personnages fictionnels. Le nobody ici. Alors évidemment, le personnage, son prénom, c'est Nemo. Nemo Nobody. Donc c'est effectivement en référence à Nemo, à ce rêveur en fait qui rêve l'ensemble de ses vies de manière rétrospective. Et tout le film va donc nous montrer ces différents possibles qui se mélangent selon les embranchements. Et le film joue aussi sur les niveaux de sens et sur les codes génériques. Si Nobody se souvient de toutes ses vies, c'est pour une question de compte. Il explique que tous les enfants avant leur naissance, en fait, se souviennent de toute leur vie par avance. Mais qu'un ange pose le doigt en dessous de leur nez, c'est pour ça qu'on a une petite fossette, et c'est pour ça qu'on, c'est comme ça qu'on oublie nos vies avant de naître. Lui, les anges l'ont oublié. C'est pour ça qu'il se souvient de toutes ses vies. Après, une de ses vies, c'est de faire de la vulgarisation scientifique sur le temps à la télévision, ce qui est d'ailleurs sa vie la plus tragique. Sa vie la plus tragique, vu que c'est dans cette vie-là que sa femme est ou dépressive, ou décédée, ou que lui meurt jeune. Le reste de ses vies, il les rêve. Une de ses vies, c'est aussi la vie qu'il écrit lui-même et imagine en tant qu'auteur de science-fiction, où il finit par mourir dans une explosion en revenant de Mars, après être allé sur Mars pour répandre les cendres d'une de ses femmes mortes qui voulait finir ses jours là-haut. Et donc le film va mélanger en fait cette conception du temps, c'est-à-dire une conception plus philosophique où le présent est toujours en tension entre un souvenir, entre une attente, qui est ce que je vois de l'avenir, et que finalement mon moment présent n'est finalement que cet instant transitoire entre ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après. Et que notre temps à nous est effectivement un temps linéaire, mais c'est aussi un temps cyclique, c'est un temps de répétition. On se repère à des choses quotidiennes, à des choses qui se répètent. L'écoulement du temps, c'est le lever du soleil, c'est le toast le matin, c'est le réveil matin. Tous ces signes qu'on va se voir dans tous les films et les récits de science-fiction qui vont nous donner des repères, qui vont nous permettre effectivement de vérifier les variations ou d'avoir un côté objectif qui va nous permettre effectivement d'évaluer l'ampleur de la variation par rapport à un écoulement normal. On va passer à d'autres modalités. Donc là, on est sur une variation très libre entre d'un temps quantique, mais dans une variation très libre qui va osciller entre un réalisme psychologique, entre le conte de fées. Je vais pas. Qui n'a pas vu Mr. Nobody ici ? Non mais c'est bien, je demande avant pour savoir ce que je vous dis après. Donc je vous en dis pas plus. Mr. Nobody, Jacob von Dormel. C'est merveilleux. C'est complètement personnel comme avis, on est d'accord, hein, vous avez le droit de détester. Moi, c'est un de mes films préférés. Hein, avec Eternal Sunshine of the Spotless Mind, je crois que c'est un des plus beaux films que je connaisse qui marie voyage dans le temps subjectif et histoire d'amour. J'espère que vous avez vu Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Je vous ai pas amené d'extrait là parce que c'est dur d'en parler sans le massacrer, mais c'est un film incroyable de Michel Gondry, scénarisé par Charlie Kaufman, qui est un des plus grands scénaristes d'Hollywood contemporain, hein, celui qui a fait Dans la peau de John Malkovich, qui a fait Adaptation. C'est un gars absolument extraordinaire. Et dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, est un remake de Je t'aime, je t'aime d'Alain René, qui est un autre film de voyage dans le temps subjectif, hein, auquel Claude Rich à l'époque est replongé dans une histoire d'amour qui s'est mal passé mais qui revit en fait indéfiniment. Il est enfermé dans son propre souvenir, de manière qu'il n'est pas sans rappeler La jetée de Chris Marker. On reviendra dessus si on a le temps un peu après. Et donc Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est l'histoire en fait tourne autour d'une entreprise qui s'appelle Lacuna, donc la lacune, hein, c'est un trou, et l'idée de cette boîte là le service qu'ils donnent, c'est quand on a un énorme chagrin d'amour, on peut aller les voir et ils vont effacer de votre mémoire la relation que vous avez eue avec quelqu'un. Et donc le film commence avec Joe Parrish, qui est joué par Jim Carrey, qui se réveille et qui en fait apprend que son ex, mais qui pour lui était jusqu'à encore une période récente la femme de sa vie, a fait effacer sa relation avec lui de sa propre mémoire. Et les amis et les proches reçoivent une note leur disant qu'il ne faut surtout pas évoquer cette relation avec lui pour ne pas lui faire plus de peine. Lui, atteint d'un double chagrin d'amour, elle l'a quitté et en plus elle l'a effacé de sa mémoire, décide de suivre la même procédure. Et si ça s'appelle Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est en référence à un poème et en deuxième référence seconde à Nietzsche, à cette idée d'éternel retour. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont tous les deux effacés de leur propre mémoire. Le récit est en focalisation interne, c'est-à-dire qu'on est à l'intérieur de son esprit au moment où la procédure est en train d'effacer les événements de sa vie passée, et il se rebelle à l'intérieur. Il se rend compte, alors que la procédure a déjà commencé, qu'il ne veut pas l'oublier. Il ne veut pas oublier Kate Winslet, et donc il va essayer d'emmener ses souvenirs de Kate Winslet dans des cases mémorielles où elle n'a rien à faire. Évidemment, ça va amener tout un tas de gags psychanalytiques au moment où, en fait, elle prend les traits de sa mère. Et finalement, en fait, et c'est un film où finalement ils se re-rencontrent tous les deux, alors qu'ils se sont oubliés un l'autre, et ils se re-rencontrent en fait avec les enregistrements rétrospectifs de toute la haine qu'ils ont développée l'un pour l'autre. C'est un film absolument poignant, qui se double d'une autre chose, parce qu'évidemment des employés en fait de Lacuna utilisent les témoignages des clients pour aller séduire les gens qui ont décidé d'effacer leur relation, en se servant en fait des témoignages comme une espèce de mode d'emploi. Et ils vont rejouer les scènes de séduction des gens qui se sont fait effacer la mémoire. C'est un film extraordinaire sur le temps subjectif et c'est une autre modalité hein, de voyage dans le temps, basé lui aussi sur un principe de récurrence qui lui est pas du tout adossé à une théorie physique, hein, une théorie globale, mais bien à une conception psychologique de la manière dont on perçoit le temps. J'en arrive quand même à un gros morceau du cinéma de SF, du temps dans le cinéma de SF contemporain, qui est Interstellar. Quand même, le film est entièrement basé dessus. Je dirais que toute l'œuvre de Christopher Nolan, en bonne partie, en tout cas en science-fiction, est basée sur le temps. C'est peut-être le cinéaste le plus obsédé par le temps subjectif dans Inception, et une espèce de tentative de faire de la hard SF temporelle dans Interstellar. La chose qui est assez intéressante avec Interstellar, alors si vous voulez avoir un vrai détail de la manière dont le film respecte la réalité scientifique, alors là je peux vous renvoyer qu'à une chose, c'est beaucoup mieux fait que ce que je vais vous faire moi, sur YouTube, de manière gratuite, vous avez accès aux conférences de Roland Lehoucq, hein, notre bien-aimé président, qui va vous détailler et vous narrer par le menu ce qui dans Interstellar relève de la science et ce qui n'en relève pas. En tout cas, le film a une véritable intention de rendre les effets de la relativité, la proximité d'un trou noir, d'une singularité sur l'écoulement du temps. Alors, quand on fait les calculs dans le détail, bon, ça marche en bonne partie, mais pas vraiment dans le détail, hein, on va dire. Mais là, je laisse à Roland, il explique très très bien la manière dont la planète devrait être plus ou moins proche du trou noir pour que, quand ils vont 4 heures sur la planète, ils vieillissent effectivement de 25 ans. Bon, mais le film a cette intention-là en tout cas. Il est entièrement basé sur cette idée, hein, sur l'idée de la contrainte temporelle du voyage spatial. Il commence effectivement sur une idée de catastrophe écologique. Donc on a toujours en science-fiction, toujours, il n'y a jamais de toujours en science-fiction. Mais on a quand même dans cette idée de la conception du temps en science-fiction que c'est un temps global, qu'on a un temps de l'humain dans le temps d'un géo-environnement, du temps d'une planète qui elle-même répond à un temps cosmique. Hein, donc nous vivons un peu moins d'un siècle, sur une planète qui de toute façon va être détruite dans 4 milliards d'années par la prise de masse du Soleil et sa transformation en géante rouge, qui elle-même est liée au mouvement de la galaxie, qui elle-même est dans le mouvement de l'univers. Bon. Jusque-là, on est dans de la relativité plan-plan. Le film nous le met en scène. Nous met en scène cette idée de catastrophe écologique, de mort de l'espèce, et joue tout le long du film sur une ambiguïté de la mission. Un trou de ver est apparu dans le système solaire, donc il est accessible par nos technologies. Par contre, effectivement, si d'ici 2 générations, l'espèce humaine va commencer à asphyxier, il n'y a strictement aucun moyen de sauver l'espèce humaine. Mais c'est l'espoir qui est donné par un scientifique, hein, qui révèle à un moment son mensonge. On va peut-être pouvoir, alors qu'en fait le vrai but de la mission imaginée par le scientifique, c'est en fait de permettre à l'espèce, c'est-à-dire de replanter, de réimplanter l'espèce dans une planète différente, sachant que dans sa tête il n'y a aucun problème, tout le monde va mourir, on pourra sauver personne. Et derrière, là où le film va évidemment jouer, c'est on va aller au-delà d'un trou noir, on va aller explorer physiquement, on va mettre quelqu'un au-delà des limites de notre connaissance et de ce qu'on peut avoir. Et on va avoir un autre type de jeu sur la théorie des cordes qu'on va regarder tout de suite.
It's not a ghost. It's gravity.
But you're gonna get taught. I brought myself here. We're here to communicate with the three-dimensional world. We're the bridge. I thought they chose me. They didn't choose me, they chose her.
For what, Cooper?
To save the world. All of this is one little girl's bedroom. Every moment. It's infinitely complex. They have access to infinite time and space, but they're not bound by anything. They can't find a specific place in time. They can't communicate. That's why I'm here. I'm gonna find a way to tell Murph, just like I found this moment.
How?
Love, Tars, love. It's just like Brand said. My connection with Murph, it is quantifiable. It's the key.
What are we here to do?
Find out. Code the dead into the movement of the second hand. Doors, translate the data into Morse and feed it to me.
Translating data to Morse? Cooper, what if she never came back for it?
She will. She will.
Murph, I can see his car! He's coming, Murph!
Okay, I'm coming down.
How do you know?
Because I gave it to her.
Roger Morse is dot dot dash dot.
Tout à l'heure qu'on peut reconnaître un mauvais film de science-fiction au fait qu'à la fin on sauve le monde. Non, je le pense pas. J'aime bien Interstellar. C'était juste une... c'était pas complètement une vanne, mais un peu. Ce qu'on fait dans ce film-là est assez intéressant. Il y a plein de choses qui sont assez intéressantes. De quelle manière est-ce qu'il va mettre problématiser le temps relatif dans son récit. Ceux qui l'ont vu, la première planète sur laquelle il se pose, en fait, donc il passe par un trou de ver, donc ils arrivent dans une autre galaxie, ils se posent sur une première planète près d'un trou noir, donc chaque minute, en fait, va compter des années pour la Terre. Sachant que leur problématique au départ, même si elle est balayée dès la première planète, c'est d'aller suffisamment vite pour trouver un moyen de sauver les gens qui sont sur Terre, même si c'est une illusion. Et en fait, la première planète sur laquelle ils se posent, en fait, est une planète dont la géologie, on va dire, douteuse, hein, où il y a ça d'eau, avec par contre d'énormes vagues qui arrivent. Alors, Roland, dans sa conférence, si vous allez la voir, hein, balaye ça en disant c'est pas possible. Moi, je suis pas aussi catégorique que lui, vu qu'on voit à peu près juste une toute petite vision de la planète. On peut très bien imaginer qu'il y a un effet de la gravité, mais c'est surtout un effet visuel. Les murs d'eau de cette planète-là servent d'écho visuel au rideau de poussière qu'on a dans la chambre de Murph. Ça sert à ça. Ça sert aussi d'écho visuel quand on la regarde de loin à la montre elle-même, hein, vu qu'on a effectivement une planète qui elle-même est parcourue par une aiguille. Et par une deuxième, à ce rythme-là. Dans l'intrigue, l'idée de cette planète-là, c'est que, comme justement, ils sont surpris et ils ont une panne. Stay with us. Comme ils ont une panne Comme ils ont une panne sur cette planète-là à cause de la vague, justement, ils perdent des années et des années. Ce qui fait que le scientifique resté, en fait, sur le vaisseau, pour eux, ça dure 4 heures, le scientifique sur le vaisseau reste 25 ans. Et il décide de ne pas dormir pendant 25 ans. Il aurait pu rentrer en hibernation, mais il décide de non, il décide de collecter les données du trou noir afin de permettre à l'humanité de résoudre l'équation de maîtriser la gravité et donc de sauver en masse la population terrestre en créant des navettes spatiales. Et donc, les données que là, il donne quand lui se jette dans le trou noir, c'est en fait les 25 ans de données de physique quantique au-delà de nos connaissances qui vont donc être traduites en morse et que à coup de doigt. Mais comme le temps n'existe pas, il n'y a pas de problème, on s'en fout qu'il y passe 60 ans, il peut. Mais là, en gros, il est en train de donner la clé de la théorie unifiée, en gros, et du contrôle de la gravité en morse sur l'aiguille. On retrouve évidemment un jeu visuel sur comment représenter visuellement un monde à 4 ou 5 dimensions. Hein, donc on a l'idée d'un Tesseract comme ça à l'infini. Et avec cette idée de la théorie des cordes qu'on a derrière, en les prenant presque littéralement avec cette idée justement de faire des cordes sur lesquelles il peut jouer, hein, et qui représentent chacune en fait tous les états empilés possibles. Et donc visuellement on a ça. Chose intéressante avec ce film-là, c'est que le film est présenté, écrit avec une espèce de volonté de faire presque de la hard SF. Chose extrêmement rare au cinéma, il n'y en a pratiquement pas. Mais quand on regarde le scénario, en fait, si on devait le résumer en deux lignes, c'est un scénar de série Z de studio des années 50. Parce qu'en fait, c'est l'amour qui sauve le monde. Et alors, comme ils ont honte de rien dans cette scène-là, l'amour est même quantifiable. C'est une force de l'univers, au même titre que la gravité. Il fallait l'oser comme ça. Comme c'est très discret, ça saute pas aux yeux. Mais c'est quand même un film de hard SF ultra moderne, hyper léché, avec un scénar de nanar des années 50 en fait. Mais c'est discret, donc ça se voit pas trop. Ça reste de la SF sérieuse. Après, on a aussi, mais comme d'habitude, on a tout ce jeu de décalage en fait sur les niveaux de sens hein, et sur les niveaux du récit. Là, on a tous les artifices cinématographiques pour les différentes échelles temporelles. On a la vision de lui au début du film avec Murph enfant. On a des plans de coupe avec Murph en fait. De manière contemporaine, en tout cas, quand elle a 45 ans et qu'elle est sur le point de découvrir, en train de reprendre la montre, juste après, en fait, qui a été déposée, juste après la scène où on la voit enfant. Et en même temps, on a le rappel du frère, qui lui voit dehors, enfin, qui n'est pas son frère d'ailleurs, hein, le frère, c'est celui qui a la barbe, hein, c'est son fiancé qui n'est pas barbu. Mais donc, on voit arriver, en fait, la tempête. Et donc, il revient. Et en fait, lui parle de la tempête qui elle-même annonce la fin du monde, donc en fait l'échelle temporelle qu'ils ont pour sauver la planète, avec ce double sens puisque c'est enchaîné où il revient. Est-ce qu'il est en train de parler du père dont elle vient de comprendre qu'il ne l'a jamais quitté et qui lui donne la clé de la théorie unifiée en faisant reculer la petite aiguille, tout en signalant l'autre échelle temporelle de la fin du monde? Donc là on a un effet de montage et d'accélération qui est assez exemplaire en fait. Il multiplie ces échelles temporelles pour nous mettre ça exactement de la même manière que dans la même séquence, on va avoir toutes ces dimensions qui vont être intriquées en elles-mêmes, comme le développait Nemo Nobody dans la séquence juste avant. Évidemment, il fallait que je limite les extraits pour des questions de temps. Difficile de ne pas parler quand même, quand on évoque Interstellar de Christopher Nolan, de ne pas parler d'Inception. Dans Interstellar, il essaye effectivement de faire un récit à la hard SF basé sur un temps qu'on va dire objectif. Je ne suis pas en train de faire une grande catégorie intellectuelle, juste de séparer les choses. C'est-à-dire de baser son récit sur le temps tel que défini et compris par les grandes théories de la physique du XXe siècle. Avec évidemment un jeu libre à la fin sur la théorie des cordes, forcément, vu qu'il n'y a aucune preuve expérimentale de la théorie des cordes. Mais il en fait quelque chose, un objet visuel. De l'autre côté, dans Inception, là, il va directement du côté de Philip K. Dick et du temps subjectif. Avec le film est entièrement fondé sur une notion temporelle et sur des niveaux. Alors, si vous ne vous souvenez pas de l'intrigue, Inception en 1 minute 30, c'est une gageure. Mais tout se passe en fait, la dernière action où il doit effectivement insérer un souvenir... où l'idée en fait de démantèlement d'un empire dans l'héritier d'une multinationale, pour y arriver, ils font un rêve dans le rêve, dans le rêve, dans le rêve. Et à chaque fois qu'ils passent un niveau, le temps, il y a une espèce d'effet de relativité, plus ils s'éloignent de la réalité, plus le temps est long. Et donc une minute au premier niveau, ça peut être 5 minutes, au deuxième niveau ça va être une heure, au troisième niveau ça va être un an, au dernier niveau ce sont des années, c'est ce qu'ils appellent les limbes. Et tout le film donc va reposer sur cet effet-là, mais surtout va reposer sur la synchronisation de ces différents moments. Et il y a deux manières de le synchroniser, ce qu'ils appellent the kick. Donc pour se réveiller, il faut qu'ils agissent sur l'oreille interne. Donc il faut qu'ils aient l'impression de tomber. Évidemment, le jeu, le film, étant un film dickien, a un narrateur non fiable qui ment sur ses propres règles du jeu. Donc il n'explique pas que le fait d'aller à autant de niveaux implique un sédatif qui fait que s'il meurt dans le rêve, normalement, quand il n'y a qu'un seul niveau, il se réveille et il n'y a pas de problème, comme un rêve auquel on est habitué. Là, non. Le sédatif est très puissant pour permettre les quatre niveaux. Donc, s'il meurt dans le rêve, il risque de se retrouver dans les limbes. Donc, de passer subjectivement 3, 4, 5 siècles, 2000 ans, jusqu'à perdre complètement la mémoire. Et on va avoir donc toute la scène finale va être fondée là-dessus, sur la manière dont on va synchroniser les effets de réveil pour remonter au premier niveau. Le film étant lui-même encapsulé dans deux choses. C'est-à-dire qu'on a cette intrigue qui se déroule avec vraiment un effet de linéarité à la fin. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film, mais il y a un niveau en fait où ils sont dans un camion, et puis un niveau où ils sont dans un hôtel, dans un ascenseur, puis un niveau dans lequel ils sont dans une base en fait dans les montagnes, hein, qui est un niveau James Bond. Et on a ce niveau, ce dernier niveau qui est entre un niveau consensuel de limbe et le niveau personnel du narrateur, hein, dans lequel il a passé déjà des dizaines d'années avec son ex-femme qui s'est suicidée pour je bla 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 bla. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais rester sur le temps. Donc on a d'un côté ce récit qui est basé vraiment sur une imbrication de récits linéaires qu'il va synchroniser au bout d'un moment, parce que quand il se réveille, il y a vraiment cette idée. Il y a toujours une musique en fait, parce que quand ceux qui sont endormis dans le camion entendent la musique est entendue à tous les niveaux du rêve. Donc là, c'est Édith Piaf qui démarre, et ils savent qu'avant la fin de la chanson, en tout cas, il doit avoir réveillé chaque niveau. Mais cette notion linéaire de temps, même complexifiée par les différentes échelles et les différentes temporalités relatives, au sens subjectif, sont encapsulées dans une notion cyclique. Le film commence sur la fin. Le film commence avec Mr. Cobb, avec Leonardo DiCaprio, donc, qui est donc le héros qui est là, qui est extrêmement vieux, de manière un peu bizarre, on a l'impression d'avoir qu'il a perdu la vue, face à un vieillard, avec cette idée que ça me rappelle quelqu'un qui avait des idées radicales. Le film se finit aussi là-dessus. Et comme le dit Nemo tout à l'heure, si on commence à manipuler le temps et à mettre en jeu notre perception du temps ou la manière dont le temps nous définit ou autre, on arrive à une notion de savoir si le temps est une illusion, si on est dans une ligne temporelle réelle ou dans une ligne rêvée, dans une ligne subjective ou pas, dans une ligne de rêve ou pas. Et le film joue entièrement sur cette ambiguïté-là. À la fin, on ne sait absolument pas si il a réussi à aller chercher le personnage qui meurt à un certain niveau. Il décide de plonger d'un niveau, en fait, pour essayer de le récupérer et de le réveiller. On ne sait absolument pas, à la fin du film, si on a récupéré un niveau actuel, au sens de logique modale, hein, là où se passent les actes, hein, pas contemporain, hein, mais si on est vraiment à un niveau des actes ou si on est encore à un niveau onirique. Et si ce qu'on voit, c'est le déroulement, c'est le rêve du héros principal. Le film est construit pour qu'on ne puisse pas savoir, évidemment. Hein, tout le film est basé là-dessus. Hein, et on peut s'interroger des tonnes de fois si le film donne des indices ou la solution. Non. Tiens, non. Je faisais hier, avant-hier, une table ronde sur quelqu'un à tort sur Internet. Le nombre de pages sur Internet qui essayent de décortiquer Inception pour voir à quel moment Nolan a donné la réponse. La réponse est simple, et Nolan le dit lui-même, il ne l'a pas donné. Il a construit tout son film pour que justement on ne puisse pas savoir. Vu que c'est toute l'autre intrigue du film, hein, qui est que justement sa femme est morte, hein, c'est une fille aux cheveux noirs dickienne, elle est morte parce que justement elle ne faisait plus la différence, ne voulait pas revenir au monde réel. Et donc pour qu'elle revienne au monde réel, la première Inception, c'est lui qui l'a fait, il va justement prendre le gyroscope de sa femme et introduire l'idée symboliquement que ce n'est pas la réalité, que cette réalité est factice. Le problème, c'est qu'effectivement, elle se réveille, mais que cette idée perdure. C'est comme ça qu'il sait que l'Inception fonctionne et que dans la réalité, elle perdure. Et que les enfants que lui veut retrouver, dont il est, parce qu'il est exilé des États-Unis justement pour le meurtre de sa femme, elle ne croit pas à l'existence de ses enfants. Elle n'y croit pas du tout et finit par se suicider. Et donc, toute cette idée, justement, qui est représentée par le gyroscope, hein, d'indéterminabilité ou de régression infinie, hein, est-ce que c'est le reflet que je vois, le reflet du reflet, ou est-ce que je suis l'original, appliquée là à une logique temporelle qui encapsule le récit, c'est exactement ce qu'il fait à ce moment-là, dans son temps. Et il coupe le film, parce que c'est un film de toute façon s'enchaîne, et nous sommes dans un temps linéaire, on aimerait bien en sortir, mais on ne peut pas. Mais le film coupe justement sur cette idée-là. On revoit la même image des enfants qu'au début. Et donc ça, c'est un signe pour beaucoup de gens que, mais évidemment, c'est un rêve, on les a déjà vus avant, les enfants. Et là, j'ai envie de répondre comme le docteur Edgemar dit à Arnold Schwarzenegger dans Total Recall. Mais écoutez-vous, monsieur Quaid, elle est réelle parce que vous en avez rêvé avant ? C'est absurde de dire, mais non, mais ils sont faux, il en a rêvé avant. Oui. Et donc, s'il est vu, si on est en narration, en focalisation interne, c'est-à-dire qu'on a la perception du temps du personnage, le fait d'avoir vu le fantasme de ses enfants avant, c'est pas parce qu'on voit la même image ou on a l'impression de la revoir 2 heures et quart plus tard, c'est une preuve que l'image est pas vraie. Puisqu'on n'a aucun signe qui nous dit est-ce que c'est ce qu'il est vraiment en train de faire, ce qu'il va voir, est-ce que c'est le souvenir juste avant de sortir, on n'en a pas la moindre idée. Et il pose dans le film que la seule manière de savoir si on est dans le rêve ou la réalité, c'est si le gyroscope tombe au bout d'un moment. Bah, il coupe avant. On saura pas. C'est frustrant, les fins ouvertes, mais ça évite. C'était le même principe chez Philippe K. Dick, et c'est ça qui est très très dickien. C'est qu'on a souvent tendance à dire, je vais y revenir juste après, que les fins ouvertes de Philippe K. Dick sont des fins faciles. C'est faux. Le problème de Philippe K. Dick, c'est qu'il met en récit des réflexions philosophiques démarrées 2000 ans avant lui. Et il les connaît suffisamment bien pour ne pas proposer une réponse à l'emporte-pièce dans un récit de fiction de 200 pages. Donc non, il met en question, il met en récit des questions et il finit sur une question. Il ne résout pas. Il nous rend la question sensible à travers un récit. Et c'est exactement ce que fait Nolan dans son film, ou ce que fait Westworld de plein de manières aussi. J'ai évoqué une idée de temps cyclique et de rapport à la mort. On a toute une gamme de films, particulièrement récemment, qui ont développé cette idée de récurrence, avec une scène qui va se répéter, comme ça, sur laquelle, avec beaucoup de notions quantiques. Alors récemment, on a eu Displacement, enfin, on en a eu un sacré paquet, là, c'est vraiment de ces dernières années. Je vous ai fait une petite compile. On a parlé d'Harold Ramis, donc là, vous allez avoir Groundhog Day, Un jour sans fin, vous allez avoir Doctor Strange. Ouais, j'ai mis du super-héros, excusez-moi, mais j'aime bien les scènes. Doctor Strange, voyez-le en 3D. Il n'y en a pas beaucoup qu'il faut voir en 3D, mais celui-là, il faut. Hein. Vraiment, et puis un autre à la fin.
Well, we mustn't keep our public waiting, huh? It's showtime, Phil.
Be okay. Well, no, probably not now.
Well, Mr. Connors, would you like some toast?
He was a really, really great guy. I really, really liked him. A lot.
I'm sorry? What was that again?
I'm a god.
You're a god.
I'm a god. I'm not the god. I don't think.
You gave Caecilius powers from your dimension. I brought a little power from mine. This is time. Endless looped time.
No.
Dormammu, I've come to bargain.
You cannot do this forever.
Actually, I can. This is how things are now. You and me trapped in this moment endlessly.
Then we'll spend eternity dying.
Yes. But everyone on Earth will live.
But you will suffer.
Pain's an old friend.
Dormammu! I've come to barter. Dormammu! Dormammu! Dormammu!
No, but I can lose again and again and again and again forever. That makes you my prisoner.
No! Stop! Make this stop! Set me free!
Getting slaughtered. You need to get us off this beach.
Wonder what this does. I'm thinking it might melt brains. Does it melt brains?
You kill a Starfleet captain, they lock you up forever. You know that.
Do you know how many times I've had the pleasure of taking your life, Lorca? But who's counting? And it never gets old. Oh, drat, we're almost out of time. I'll figure out how that little motor of yours works sooner or later. I've got all the time in the world. And in the meanwhile, we still don't know what this does. Let's find out.
Donc sur le même motif en fait de la boucle temporelle et de la mort successive du héros, là on est passé par pas mal de genres différents. The Groundhog Day, donc un jour sans fin d'Harold Ramis au départ, est plutôt sur un mode du conte, de l'édification. Ce que le personnage doit faire en fait, c'est accéder à un, on va dire, un statut moral un peu plus grand, où il comprend l'autre, où il écoute enfin, où il est plus dans un rapport de séduction. Il faut qu'il arrête d'être narcissique et devienne quelqu'un de bien pour s'en libérer. On n'a pas spécialement de justification. Dans Doctor Strange, pareil, on a l'idée d'un pouvoir magique. Le film joue énormément avec des effets cinématographiques d'arrêt du temps et de retour. C'est problématisé, mais on est effectivement sur un motif relativement magique. Il n'y a pas grand-chose à en faire. Edge of Tomorrow, on est entre les deux. C'est-à-dire qu'on est à la base Edge of Tomorrow, donc avec Tom Cruise. Premier plaisir, si vous voulez voir Tom Cruise mourir 25 fois en un seul film, c'est votre film. Déjà, c'est le bonheur. En plus, on le bâillonne plusieurs fois, on l'enferme, il est détestable. Enfin, c'est un film qui fait du bien. Ça, c'est la première chose. C'est l'adaptation d'un light novel. Donc, en fait, la justification de la boucle temporelle est extrêmement ténue. Hein. Il a été aspergé par le sang d'un alien et c'est comme ça qu'il gagne la guerre. Bon. Mais ceci dit, c'est ce principe-là est quand même respecté de manière cohérente jusqu'au bout. Hein. Il y a cette idée que s'il y a une transfusion sanguine un peu trop bébesse, il perd ce pouvoir-là. Et surtout, ce qu'on voit arriver dans ce film-là, et c'est pas pour rien que c'est adapté d'un light novel japonais, c'est aussi une esthétique du jeu vidéo qui va beaucoup jouer dans cette idée de récurrence. Et on le voit dans la manière dont la scène est construite. C'est-à-dire qu'il doit connaître l'enchaînement pour aller de plus en plus loin dans le niveau. Donc on est vraiment sur une esthétique de récit issue et de logique du récit issue du jeu vidéo. Et le dernier morceau, je sens que j'ai une indication temporelle qui vient en train de m'arriver à l'oreille.
On vous laisse, on ne bosse plus.
Pas de problème. Bye. Quand on passe donc le dernier, je ne sais pas si vous avez reconnu la dernière séquence. Là, c'est pour ceux qui suivent la dernière série de Star Trek. Hein, c'est Star Trek Discovery, saison 1, épisode 7. Où là, on retrouve exactement le même modèle. Hein, désolé si vous l'avez pas vu, mais je vous ai pas dit la fin. Mais donc, c'est un des personnages qui effectivement est doté d'une technologie qui lui permet de faire une boucle temporelle. Alors. Bon, on est dans Star Trek, ça a l'air d'être plus science-fictionnel. Je vais quand même montrer que dans cet ensemble de films qu'on a actuellement, hein, qui jouent sur des boucles de récurrence, il y a plus ou moins de vernis scientifique qui justifie en fait la mise en scène. Mais que bon, on est quand même sur plus un motif de récit qui est devenu à la mode et qui en fait est issu de la science-fiction quand même en première partie, mais qui est devenu à la mode plutôt que sur un mode qui aujourd'hui est spécifique à la science-fiction. Allez, j'en ai encore deux à vous montrer. Et j'ai pas du tout abordé les paradoxes, mais si vous avez des questions, j'arrive à les trois, j'en ai à vous montrer. J'en ai une autre, c'est un effet purement cinématographique. On n'a pas arrêté d'accélérer le temps. Il y a eu quelques avancées technologiques ces dernières années qui sont venues de la photo, avec notamment quelques petits Français qui ont inventé les procédés, qui ont été appliqués au cinéma. Donc, par exemple, c'est un film de super-héros, c'est X-Men Days of Future Past, qui est aussi une histoire de voyage dans le temps, avec un personnage, donc qui s'appelle Quicksilver, fils de Magneto.
Somebody move! Hold it right there!
Charles?
Don't move! Hands up, or we will shoot!
Freeze him, Charles.
I come.
Hands up!
If I could save time in a bottle, first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know you're the one I want to go through time with.
Donc il reprend le même procédé hein, dans le troisième hein, de la même série. Ça faisait plaisir, ça faisait des années que Bryan Singer n'avait pas tourné, s'était pas fait autant plaisir sur une scène de mise en scène. On a absolument tous les effets, avec évidemment l'effet le plus saillant qu'on a là. Bon, il y a énormément d'effets d'accélération et de ralenti à chaque fois qu'il touche quelqu'un, hein, où il nous fait les effets de vague. On a les effets effectivement. Vous avez déjà vu apparaître ça notamment dans la publicité à la fin des années 90, où on avait ces photos qui... D'un coup, on avait une image figée, on commençait à bouger autour. Et là, en gros, on est 20 ans après l'invention du bullet time, en gros. Où là, on n'a même plus besoin physiquement de faire tourner la caméra. On peut prendre tout l'environnement numérique et en faire absolument tout ce qu'on veut. Mais l'effet cinématographique, le truc qui fonctionne mieux, c'est un effet de base, c'est l'effet de la musique. Où là, tout d'un coup, on passe d'un truc extrêmement violent qui se file en un instant, on le fige, et là tout d'un coup on a un autre rythme, on a le rythme de la musique qu'il entend, on passe en focalisation interne par la musique, parce que la musique au cinéma c'est un truc complètement irréaliste. Hein. C'est un code qu'on accepte, mais on l'accepte. Enfin, je veux dire, si jamais vous aviez une musique de fond qui apparaissait là maintenant, ça nous ferait quand même un peu bizarre, quoi. Enfin, c'est... Il y a d'ailleurs un film qui s'appelle Stranger Than Fiction qui joue exactement là-dessus. Là, la musique, elle est in. On est vraiment... Il a ses écouteurs, il l'écoute, et c'est vraiment cet effet de musique extrêmement lent qui va nous souligner, justement, sa propre temporalité et qui va en plus jouer sur tous les écarts de vitesse, en fait, qui sont introduits. Là, pour le coup, c'est un effet de manipulation du temps purement cinématographique. J'en viens à une des scènes de manipulation du temps, qui un des meilleurs trucs que j'ai vu en science-fiction audiovisuelle ces dernières années, qui est la série Black Mirror, série britannique, la dernière saison est américaine. La partie britannique de Black Mirror, c'est toujours Charlie Brooker qui est au scénar, c'est conclu avec un épisode qui était un épisode spécial Noël, qui s'appelle White Christmas. Donc la personne que l'on voit là, c'est la petite fille de Charlie Chaplin. Bon, ça c'est l'actrice, ça c'est Una Chaplin. Je dis ça parce que qu'est-ce que c'est beau un film quand il y a Una Chaplin au milieu. C'est dommage qu'elle ait voulu épouser Robb Stark. C'est quand même très très dommage pour tout le monde. Mais donc là en fait c'est un récit qui est inspiré de Greg Egan, d'une nouvelle absolument fabuleuse de Greg Egan où on a un développement la cliente, donc la réelle. La vraie Una Chaplin a fait développer une intelligence artificielle par réplication de son propre cerveau. Elle, c'est l'intelligence artificielle qui vient de se retrouver dans son œuf et sa mission, c'est d'être le système domotique ultime. C'est-à-dire que c'est elle qui doit gérer absolument tout dans la maison. Et là, c'est le moment où son opérateur doit en fait lui expliquer quel est son travail. Elle vient de découvrir qu'elle n'était pas complètement réelle.
Look, it'll be much easier if you just comply.
I'm not doing this. I'm not some sort of push-button toaster monkey.
Would you prefer to do nothing?
Well, I'm not doing this.
Right, well, nothing it is then. Let me show you what that is like. 3 weeks sound good? That should give you a taste.
No, wait, what do you mean, 3 weeks? If you just wait for just...
What about now?
Please, don't do that again. Please, there's nothing to do here. There's nothing, there's just... I mean, there's nothing.
I did warn you.
I couldn't even sleep.
Well, you don't need sleep. Ready to go to work?
Oh, no, I'm not. Definitely not doing that.
Okay, well, have 6 months.
No, wait!
See, the trick of it lay in breaking them without letting them snap completely, if you get me. Too much time in solitary, and they just wig out. No use to anyone. And you just sell them cheap to the games industry. They become cannon fodder for some war thing. How are we feeling now?
Please, give me something to do.
Ready to work?
Please, I'll do anything. Just give me something to do, please.
Okay. Great toast, by the way. Hey!
Is it set up?
You are all set and ready to go.
Donc là, on a cet effet effectivement de temps subjectif, de temps maîtrisé. On avait cette idée-là hein, déjà dans Inception à ce moment-là, parce que là, il y a un contrôle total effectivement sur la chose. Donc c'est le temps comme torture. Qui a vu ça? Ah. Et donc pour ceux... Ah non, je peux pas faire ça pour ceux qui l'ont pas vu. Il y a une autre, c'est encapsulé dans une deuxième dimension, temporelle, mais le rapport au temps subjectif et à sa maîtrise là est juste absolument merveilleux. La scène que j'ai coupée derrière pour des questions de temps, parce que je savais que ça allait être un peu long, c'est que juste après, elle prend en charge le temps quotidien de son original. Donc elle, il y a cette idée qu'elle est en fait dans un état, comme ils disent, hein, ils disent break her. Alors en anglais, to break, you break a horse. Le problème, c'est qu'en français, c'est débourrer un cheval. Alors, j'ai un peu des scrupules à l'utiliser, il faut qu'il la débourre. Mais en fait, c'est ça l'idée. Hein, c'est ça l'idée. C'est vous qu'il arrive, justement, à la contraindre à agir sans lui faire perdre complètement l'esprit. Hein, avec cette idée assez géniale que quand ils ont perdu l'esprit, qu'ils ont pété un plomb, ils sont capables de moins. On les vend à l'industrie des jeux vidéo pour être des IA, pour être des PNJ dans n'importe quel MMO. Et donc, l'idée derrière, c'est qu'on la voit, justement, avec une référence en plus à 2001. Bon, on n'aura pas évoqué ici, mais c'est pas très grave. Avec cette idée que derrière, elle va gérer le quotidien de la personne, donc lui faire les toasts le matin, lui ouvrir les volets pour qu'elle ait le soleil, et donc que du coup cette espèce de représentation numérique des cycles naturels, hein, qui reprend notre conception traditionnelle de représentation de l'écoulement du temps, va devenir son quotidien à elle d'une manière doublement ironique. Hein, cet instrument de torture numérique, en fait, va la contraindre à accomplir sa mission qui est de rendre aussi agréable et aussi doux que possible la gestion de son quotidien, de son original. Elle va gérer évidemment toutes ses échelles, hein, ses rythmes circadiens, son petit déjeuner, son agenda, le tout sur une magnifique musique classique, avec évidemment l'autre personnage qui trouve ça absolument monstrueux, puisque elle-même, au départ, quand elle est créée, se croit réelle. Absolument. Pour finir, mais si vous avez des questions, et je sais que j'ai laissé, alors j'ai laissé de côté quand même des choses avant de passer le dernier extrait, quand même des choses évidemment. Je suis passé assez rapidement, je l'ai même pas évoqué du tout, hein, sur l'échelle temporelle de la SF. On l'a un peu avec Interstellar, c'est quand même dur de pas citer les grands effets, ceux de 2001 notamment, hein, où on a toute l'histoire de l'humanité, avec notamment des effets. Il y a quand même un effet sur le temps cinématographique de Kubrick qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie, qui est juste le début de 2001. C'est-à-dire, c'est l'aube de l'humanité avec cette idée où on a l'apparition de l'Homo erectus, donc qui apprend à se servir d'un outil, avec un plan de transition qu'on voit dans toutes les écoles de cinéma, où justement il lance son os en l'air, et où en fait le premier signe de progrès de l'homme lui permet effectivement de tuer quelqu'un et d'agir sur le monde, et en fait il lance l'os dans l'air, et il y a une transition directe entre l'os lancé dans les airs et un vaisseau spatial qui est justement en orbite de la planète. C'est extrêmement classique, mais c'est évidemment ça. L'autre chose que j'ai laissé de côté, et j'ai même laissé de côté, j'avoue, mon cinéaste et mon auteur de prédilection, c'est Terry Gilliam. C'est toute l'idée du temps du rêve, hein, du temps onirique qu'on a énormément en science-fiction. Et j'ai laissé de côté, évidemment, la question du paradoxe temporel. Puisque le paradoxe temporel au cinéma, y a des effets absolument géniaux. Enfin, je veux dire, si vous avez jamais vu L'Armée des 12 singes, mais précipitez-vous. Enfin, il faut voir, un des 10 plus grands films de tous les temps, point. J'ai le droit de dire des trucs comme ça parce que j'ai le micro. Vous avez le droit de pas être d'accord, mais c'est moi qui ai le micro. Donc, le meilleur film de tous les temps, c'est Brazil. Et le deuxième, c'est L'Armée des 12 singes. Et c'est hyper discutable, mais j'en profite parce que je l'ai encore pour quelques minutes. Mais donc, on a effectivement laissé de côté l'ensemble des paradoxes temporels, même si l'idée du paradoxe, on va avoir quand même deux grands types de films. Il y a des films qui vont être basés sur un paradoxe. C'est un peu le cas de Retour vers le futur. C'est le cas d'autres films où effectivement on va avoir des films qui partent avec l'effet papillon ou displacement ou des choses comme ça, et on remarque qu'il y a souvent la même structure de récurrence, hein, qu'on a pu voir là, hein. J'avais pris des cas un peu typiques, mais et souvent on arrive, et il y a eu El Hominem de Futuro qui a eu le grand prix aux Utopiales il y a 3 ans aussi, qui est sur le même principe, et on arrive très souvent au même type de scénario où à la fin celui qui a le pouvoir de modifier le passé décide de ne plus l'avoir. Donc dans la version, le director's cut de l'effet papillon, ça finit sur le fœtus du héros qui se pend lui-même avec le cordon ombilical de sa mère dans son ventre. Chose qu'ils n'ont pas sorti au cinéma aux États-Unis à l'époque, parce que je crois qu'ils ont eu peur de se faire bomber la salle. On a pareil dans El Hominem del Futuro, on a ça dans Displacement, qui est plus récent, qui est très sympa, hein, comme film, hein, mais où elle revient au point de négation. Et à partir de ce scénario-là, on a aussi deux types de films. Il y a des films où on va savoir dès le départ qu'on a un paradoxe temporel, et ceux qui vont le cacher, où on va découvrir au fur et à mesure qu'en fait il y a eu une ellipse au début, on nous a pas dit qu'on était déjà à un niveau de profondeur. Je passe, on n'a pas le temps, mais ce serait intéressant de les évoquer quand même.